Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à tous dans ce rendez-vous avec le podcast du Centre d'études stratégiques aérospatiales de l'Armée de l'air et de l'espace. La chronique du CESA a le plaisir de vous emmener en voyage aujourd'hui avec Elisabeth Boselli, première femme française pilote de chasse de l'Armée de l'air et de l'espace et aviatrice hors du commun. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement provisoire de la République française autorise les personnels féminins à suivre la formation de pilotes militaires. Elisabeth Boselli intègre cette première promotion et devient le 12 février 1946 la première femme titulaire d'un brevet de pilote de chasse.
Je m'appelle Elisabeth Boselli et je vais vous raconter ma vie de pilote. Je suis née à Paris le 11 mars 1914. Dans ma jeunesse, je canalise mon énergie dans la pratique du sport, du piano et de la peinture. En 1935, à l'âge de 21 ans, je suis diplômée de l'École des sciences politiques. À cette époque, j'assiste avec mon frère à une conférence sur l'aviation, événement qui va à jamais changer ma vie de femme. En effet, le germe de l'aéronautique s'est désormais implanté en moi. En 1938, en échange de quelques travaux dans un hangar, j'effectue un baptême de l'air qui finit de sceller mon destin. Je serai pilote. La même année, j'obtiens mon brevet de pilote et achète en copropriété un avion Leopoldov 45. En septembre 1939, face à l'imminence des combats qui se profilent, le ministre de l'air Guy Lachambre et le général Villemain, chef d'état-major de l'armée de l'air, décident de réquisitionner, à titre bénévole, les pilotes civils féminins pour participer à l'effort de guerre. Je me porte donc volontaire pour accomplir cette mission. Nous voulions libérer les pilotes hommes de leur travail pour qu'ils puissent participer au combat. En réalité, nous savions que nous ne connaissions pas grand-chose, mais nous avions beaucoup de bonne volonté. Je rejoins la division d'avions de liaison de l'administration centrale, la DALAC, dans laquelle officient déjà comme pilotes Maryse Bastier, Paulette Brébouquet, Berthe Fina et Claire Roman. Dans cette unité, nous devons convoyer des avions des aéroclubs vers les centres d'instruction militaire. Avec la débâcle, seule Claire Roman poursuit son activité et, en vertu d'un décret signé le 11 juin 1940, devient, comme le note dans ses mémoires l'infirmière pilote secouriste de l'air Germaine Lherbier-Montagnon, la première femme pilote de l'armée de l'air avec le grade de sous-lieutenant. L'armistice sonne le glas de cette tentative de féminisation de l'aviation militaire. Toutefois, durant l'occupation, les héroïnes d'avant-guerre ainsi que d'autres femmes pilotes anonymes s'engagent activement dans les réseaux de résistance. Cet engagement au sein de la résistance, ainsi que les exploits des pilotes féminins soviétiques, péjorativement surnommés par les Allemands les « sorcières de la nuit », convainc le gouvernement provisoire de la République et le général de Gaulle à sa tête d'autoriser la création d'une école de pilotage militaire féminin. Charles Tillon, commandant des francs-tireurs partisans et nommé ministre de l'air en septembre 1944 par le général de Gaulle, décide donc sur les conseils de Maryse Bastier de fonder avec le personnel féminin engagé dans les forces armées françaises une première promotion de pilote militaire. L'armée de l'air transmet un message de prospection qui précise de chercher, parmi personnel FFA, déjà engagé volontaire pour effectuer stage de formation pilotage, STOP, avis du commandement, devront faire ressortir en particulier valeur morale, conduite et état de santé, STOP. J'ai la chance d'entendre parler de ce message, seulement diffusé par Ouidir dans les aéroclubs. Ma candidature est retenue au mois de novembre 1944. Je rejoins donc, avec 12 autres pilotes, le camp de la Martinière, situé non loin de Châteauroux. Nous sommes engagés comme pilotes féminins de première classe, soit l'équivalent de sous-lieutenant. Après 5 ans d'inactivité aérienne, il s'agit alors pour nous de nous familiariser de nouveau au maniement d'un avion. Pour cela, au même titre que les hommes, nous devons nous entraîner sur des Morane Saulnier 315 ou des Tiger Moth. Au pied des avions, Nous ressemblons plus à des nourrissons emmaillotés qu'à des pilotes de chasse. Nos combinaisons de vol, de couleurs et de formes hétéroclites, ne sont pas adaptées à nos morphologies de femmes. Au cours de ce stage, je côtoie de véritables héroïnes de la conquête aéronautique au caractère bien trempé. Il y a, en effet, Mary Zils, la voyageuse au long cours, qui est titulaire de nombreux records aériens, ou encore Maryse Bastier, qui, outre ses nombreux records, a traversé l'Atlantique Sud. Les participantes sont réparties en différents groupes. Les deux Maryse, Bastier et Hills, sont directement affectées dans les groupes de transport militaire. Paulette Bray-Bouquet, André Duperron, Gisèle Gunépin, Yvonne Jourjon et Elisabeth Lyon sont mutées au Maroc à l'école d'aviation de Casbah Tadla. Les plus jeunes sont transférées à l'école de chasse de Tours. Je me retrouve donc en Touraine avec Anne-Marie Imbrec, Geneviève Lefebvre-Cellier et Suzanne Melk. Faute de place sur la base aérienne, nous sommes logés dans un hôtel dépourvu de chauffage alors que l'hiver est rigoureux avec des températures qui avoisinent moins 10 degrés. Le terrain d'aviation est truffé de mines et de trous de bombes signalés par des panneaux « Achtung Minen ». Il y en a partout et il ne faut pas rater le décollage ou l'atterrissage. Avec Suzanne Melk, nous sommes lâchés sur un avion de chasse, le Devoitine 520, ce vénérable grand-père si délicat à piloter mais qui nous procure d'intenses émotions et autorise toutes les acrobaties. Au début, j'ai peur que ma petite taille ne m'handicape, mais très vite, je prends la mesure de l'appareil. Je réalise de nombreuses figures de voltige qui impressionnent notre moniteur, le capitaine Perrier. Cependant, deux événements viennent interrompre notre progression au sein de l'armée de l'air. Le 21 janvier 1946, le général de Gaulle démissionne du gouvernement provisoire et, le 30 janvier, Mary Zils se tue dans un accident d'avion. Ces deux imprévus sonnent le glas des femmes pilotes de chasse. Nous n'avons d'une part plus le soutien du général de Gaulle qui, ne l'oublions pas, nous a donné le droit de vote. Et, d'autre part, à la suite du décès de Maryse, les nouveaux dirigeants sont effrayés de devoir justifier auprès des Français la mort d'une femme pilote de chasse qui, dans beaucoup d'esprits, occupe la fonction sacrée d'une mère qui donne la vie. Le 12 février 1946, j'obtiens néanmoins mon brevet de pilote de chasse qui porte le numéro 32939. Mais, une semaine plus tard, mon rêve prend brutalement fin. Un télégramme laconique arrive sur la base. Retour des élèves féminines au commandement des écoles de Versailles. Nous avons certes la possibilité de rester dans l'armée pour occuper des postes administratifs, mais nous refuserons cette infamante proposition qui nous apparaît alors plus comme une sanction. Cet arrêt de la formation est d'autant plus humiliant que je reçois à mon domicile mon brevet et mon macaron de la main d'un gendarme, comme s'il venait m'annoncer la mort d'un proche. Cette déception, aussi terrible soit-elle, n'atterre pas ma passion pour l'aviation. Je me lance dans la course au record. En décembre 1947, je m'adjuge le record du monde féminin d'altitude, prélude à 7 nouveaux records obtenus entre 1947 et 1955, en particulier sur avions à réaction. En 1952, j'intègre de nouveau l'aviation militaire, mais cette fois comme pilote à l'escadrille de présentation acrobatique. En 1957, je suis muté en Algérie à l'escadrille de liaison aérienne 54. Lors de cette affectation, j'effectue de nombreuses missions de liaison ainsi que des évacuations sanitaires. En novembre, je suis affecté à Boufarik, au groupe de liaison aérienne GLA 45. Je deviens alors la factrice du ciel en assurant la distribution du courrier pour les troupes au sol dispersées sur tout le territoire algérien. En 1969, je me retire du service actif après avoir totalisé 254 missions au titre du maintien de l'ordre en 729 heures de vol, dont 86 missions en 274 heures. Sur ma poitrine, j'arbore fièrement la Légion d'honneur, la Croix de valeur militaire et la Médaille de l'aéronautique. Avant de prendre ma retraite, permettez-moi de citer Victor Hugo. Par moments, dans l'humanité, une certaine sublimité de la femme apparaît. Aux heures où l'histoire devient terrible, on dirait que l'âme de la femme saisit l'occasion et veut donner l'exemple à l'âme de l'homme. Elisabeth Boselli décède le 25 novembre 2005 à l'âge de 91 ans.